L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 11h38, ce 28 janvier 1986. Après plusieurs départs différés, la navette Challenger du vol 51L décolle enfin du centre spatial Kennedy de Floride. À bord de la navette, 7 astronautes, 2 femmes, 5 hommes. Suite à une défaillance technique, la navette spatiale explose en plein vol, à peine 73 secondes après son décollage. Il n'y a évidemment aucun survivant à bord. L'effroi est mondial. Parmi les 7 astronautes victimes de l'explosion, il y a un certain Ronald McNair. Et vous allez l'entendre. Ronald est une personnalité hors du commun. Astrophysicien de génie. Musicien virtuose. Instructeur de karaté de haut niveau. Docteur en physique mondialement célèbre pour ses recherches à propos des lasers. Ronald McNair n'avait que 35 ans lors de son second vol spatial. Un vol qui s'est soldé par la désintégration totale de la navette Challenger. Il est 11h38, l'heure H de mon récit. Cette catastrophe aurait pu être évitée. Et cette mission aurait alors vu se concrétiser l'expérience initiée par Ronald McNair. Il envisageait en effet de mener des recherches inédites, entre autres celle de jouer de la musique en apesanteur pour étudier la diffusion du son dans ces circonstances très spécifiques. C'est donc avec son saxophone, mais aussi sa partition du morceau « Rendez-vous 6 », composé pour l'occasion avec un certain Jean-Michel Jarre, que Ronald McNair monte à bord de la navette. À propos de Ronald, laissez-moi vous lire un extrait du discours qui a suivi la catastrophe dans laquelle le jeune astronaute périt. Un discours d'un autre Ronald. Ronald Reagan, cet acteur hollywoodien dont le rôle de Kudjat dans le film « Crime sans châtiment » l'avait propulsé au rang de star. Tout comme la série « Les aventuriers du Far West », et qui fut ensuite, durant 8 années, président des États-Unis d'Amérique. Voici ces mots à propos de Ronald McNair, 3 jours après l'explosion de la navette spatiale Challenger. On se souviendra toujours de Ronald McNair, qui a affirmé avoir appris la persévérance dans les champs de coton de la Caroline du Sud. Son rêve était de vivre à bord de la station spatiale, de réaliser des expériences de physique hors du commun et de jouer du saxophone en l'absence de pesanteur. Ron, votre saxophone va nous manquer, mais nous allons construire votre propre station spatiale. Lorsque Ronald Reagan prononce ces mots, des larmes perlent le long de ses joues déjà meurtries par le temps, comme si le rêve américain avait pris un coup de poignard dans le dos. Alors les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Près d'un milliard de terriens suivirent en direct à la télévision le décollage de Challenger, parti de Floride le 28 janvier 1986 pour un aller simple. Ronald McNair voulait jouer de la musique à bord et c'est le silence total et glacial qui a confisqué ses notes de musique. Avant de nous plonger dans l'histoire de Ronald McNair, laissez-moi vous dépeindre le contexte de l'époque. Celui d'une conquête spatiale qui bat son plein durant ces années 80 et qui a pu progressivement dépasser les démons de la guerre froide. La chute du mur de Berlin n'est plus si lointaine, même si, en ce tout début de l'année 1986, elle paraît encore improbable. Le vol Challenger 51L a explosé, on l'a dit, 73 secondes après son départ devant les regards médusés de la planète entière. Mais Challenger n'en est pas à son baptême de l'espace. C'est en réalité son 10e vol. En moins de 3 ans, elle avait déjà effectué 9 vols et permis le déploiement de plusieurs satellites de communication. Elle aura contribué à de nombreuses expériences scientifiques. Les missions de Challenger ont aussi plusieurs portées symboliques fortes. Une mission accueillera à son bord la première femme astronaute, Sally Ride. Une autre, les premières sorties dans l'espace sans aucune attache. Et puis, j'y reviens. Ronald McNair sera le premier Africain-Américain à monter à bord d'une navette spatiale. Alors, vous l'aurez compris, au-delà des prouesses technologiques et des avancées scientifiques, au-delà même des rivalités entre les deux puissances que sont alors les États-Unis et l'URSS, ces années 80 voient l'émergence d'un autre aspect de cette conquête spatiale, la dimension humaine. Les astronautes furent des militaires, puis des aventuriers intrépides qui auront été jusqu'à marcher sur la Lune. Mais ils deviennent alors aussi des citoyens lambda. Alors, entendons-nous bien, n'importe qui ne monte pas à bord d'une navette spatiale. Le tourisme dans l'espace arrivera plus tard, en 2021. Mais tout de même, se développe la volonté d'accomplir le rêve ultime. Qui que vous soyez, vous pourriez un jour partir dans l'espace. Car au sein de la NASA, l'agence spatiale américaine, eh bien on voit loin. On imagine déjà le 21e siècle et les futurs voyages dans l'espace rendus nécessaires en cas de destruction partielle ou totale de la Terre. Les années 80 voient en effet s'affronter deux tendances politiques très fortes au sein du Congrès américain. C'est l'essor du climato-scepticisme, doctrine défendue par le président Reagan. Il favorise l'industrie lourde et extractive au détriment de l'environnement. Les vastes programmes de protection de l'environnement initiés par le président Jimmy Carter sont rangés aux oubliettes. Du coup, on imagine qu'il faudra probablement un jour quitter la Terre. Je vous raconte cela pour bien comprendre que la NASA, mine de rien, doit tout de même imaginer ses projets sur le long terme. C'est sa raison d'être. L'histoire de la conquête spatiale ne se fait pas en 10 ans, ou même en un siècle. Et c'est pour cela que l'engagement de Ronald McNair, d'abord lors de son premier vol en 1984 et ensuite sur la mission fatale de janvier 1986, a une portée politique importante. Bien sûr, Ronald McNair est un génie protéiforme. Mais il a grandi dans les champs de coton des années 50. Il a connu la ségrégation et vécu adolescent l'assassinat de Martin Luther King. Et pourtant, à force de courage et d'une volonté sans faille, il parvint à faire partie de l'élite intellectuelle de son pays. Il symbolise, à lui seul, l'accomplissement du rêve américain. Un rêve qui peut mener jusqu'aux étoiles et que seule l'Amérique peut conduire. C'est de cela dont le président Reagan parle dans son discours à propos de Ronald McNair juste après la catastrophe de Challenger. Dans le même ordre d'idées, il serait difficile de ne pas vous toucher un mot de la 7e personne qui se trouvait à bord de la navette lors du drame. Christa McAuliffe, simple professeure de lycée. Elle avait été choisie parmi les 11 500 postulants astronautes pour devenir la première citoyenne de l'espace. Elle était donc la seule à ne pas être astronaute professionnelle. Sa présence servait à démontrer que, bientôt, les voyages spatiaux deviendraient accessibles à toutes et tous. Bien sûr, le fait qu'elle périsse ainsi en plein décollage, devant sa famille et les classes de son lycée venues assister à l'envol de la navette, a quelque peu refroidi les ardeurs en matière de citoyens de l'espace. Il faudra attendre des années avant que la NASA propose à nouveau à des non-professionnels de monter à bord. Voilà donc le contexte de ce renouveau de la conquête spatiale au cœur des années 80. Les premiers pas sur la Lune ont été accomplis il y a une quinzaine d'années et des stations spatiales sont en orbite autour de la Terre. Une certaine banalisation, même si le terme est un peu fort, semble s'opérer dans l'aventure des vols spatiaux. Challenger avait effectué 9 missions en moins de 3 ans. C'est pas rien. Et chaque décollage demeurait l'objet d'une grande fascination à travers le monde. Vous le savez sans doute, avant cette période de renouveau et d'apaisement, l'ambiance était très différente. au début des années 1950. Voyager au-delà de la Terre semble tenir plus du fantasme que de la réalité. En effet, si Werner von Braun, ce scientifique proche du régime nazi et récupéré par les États-Unis en 1945, travaille avec Walt Disney pour vulgariser et diffuser ses rêves de conquête spatiale, l'idée d'envoyer un objet ou un homme au-delà de l'atmosphère n'est pas une priorité pour les gouvernements, qu'ils soient russes ou américains. Toutefois, les ingénieurs militaires des deux camps envisagent sérieusement cette possibilité. De 1957 à 1969, la conquête spatiale devient un enjeu majeur de la guerre froide. Elle est le terrain d'une compétition technologique acharnée entre l'URSS et les États-Unis, où chacun tente de démontrer sa supériorité. Débutant en 1957 avec Sputnik 1, le premier satellite artificiel de l'histoire, elle a rapidement pour enjeu les vols habités et l'envoi d'un homme sur la Lune. Au cours de la guerre froide, l'URSS et les États-Unis lancent tous deux d'ambitieux programmes d'exploration spatiale. Cette course effrénée permet le développement rapide de leur technologie. L'URSS jouit d'une avance importante, en dépit des efforts des équipes américaines. Pendant ce temps, les États-Unis réalisent des investissements très importants pour mettre sur pied leur agence spatiale, la NASA, avec l'objectif d'envoyer des hommes dans l'espace. Un exploit qui sera accompli en premier par les Soviétiques et le cosmonaute Yuri Gagarin. Les États-Unis répliquent. En 1961, le président américain Kennedy fait le pari d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Les États-Unis travaillant alors sur le programme Apollo, consacré à la Lune, tandis que l'URSS poursuit son programme Luna. Une féroce compétition est lancée entre les deux nations. Laquelle va parvenir à envoyer un homme sur la Lune en premier ? En 1969, Neil Armstrong pose les pieds sur la Lune au cours de la mission Apollo 11, consacrant la supériorité américaine sur l'URSS. Mais à l'époque où Ronald McNair rêve de devenir astronaute, quelques années après les premiers pas sur la Lune, ce n'est pas du tout pour supplanter l'URSS ou affirmer l'hégémonie technologique et militaire des États-Unis. C'est contre les inégalités sociales qui sévissent au sein même de son pays qu'il lutte. Et c'est aux Américains et au monde entier qu'il veut montrer que l'on peut être noir, descendant d'esclaves, et accomplir l'une des plus grandes prouesses de l'humanité, celle de la plongée vers le haut, dans l'infini de l'espace. Ronald imagine alors une allégorie plus forte encore, celle de jouer du jazz dans l'espace. Un morceau qui serait teinté de Blue Note. Une musique née des voix et des instruments des musiciens afrodescendants. Une musique que l'on qualifia longtemps de musique nègre.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte la tragique histoire de Ronald McNair, qui faisait partie des 7 astronautes qui ont péri dans la désintégration de la navette Challenger en 1986. Après vous avoir planté le décor, il est temps de vous en dire un peu plus à propos de ce fameux Ronald McNair. Né à Lake City en Caroline du Sud, Ronald McNair obtient en 1971 son diplôme de fin d'études en physique à l'Université de Caroline du Nord. En 1977, Ronald réussit brillamment son doctorat au Massachusetts Institute of Technology, le célèbre MIT. Il a seulement 27 ans et ses travaux à propos de la physique des lasers sont précurseurs et traversent rapidement les frontières. Il reçoit ensuite plusieurs doctorats honorifiques ainsi qu'une vingtaine de bourses. De nombreuses mentions élogieuses de son travail apparaissent dans de prestigieuses revues scientifiques. Il devient alors physicien au laboratoire de recherche Hughes, à Malibu, en Californie. Il dirige une équipe de plus en plus nombreuse. Le docteur McNair contribue aussi à des avancées majeures de la physique. Par exemple, il a réalisé certains des premiers développements de lasers chimiques au fluorure d'hydrogène et au monoxyde de carbone à haute pression. Ses expériences ultérieures et son analyse théorique sur l'interaction du rayonnement laser intense ont fourni de nouvelles connaissances et applications pour les molécules polyatomiques hautement excitées. Oui, alors, cela peut sembler nébuleux, dit comme ça. Mais c'est en fait très concret. On parle par exemple ici de communication spatiale de satellite à satellite. 50 ans plus tard, on ne s'en rend plus compte, mais il a bien fallu des recherches pour imaginer comment les satellites allaient fonctionner. Ronald McNair travaille ensuite sur la construction de détecteurs infrarouges ultra rapides. Ses recherches commencent à intéresser en haut lieu, à commencer par la NASA. Mais ce n'est pas tout. Quittons un instant le labo de Ronald McNair. Alors que la plupart de ses camarades de lycée pratiquent le baseball, le football ou, pour certains, la boxe, non seulement Ronald pratique tous ces sports, mais il s'entraîne quotidiennement aux arts martiaux et, particulièrement, au fondement de ceux-ci, à travers une pratique assidue du karaté. Quand il n'est pas au labo, on sait où trouver Ronald, sur un tatami. Il avait coutume de dire que la plupart des solutions aux recherches scientifiques qu'il menait, il les trouvait après avoir enchaîné les katas, parfois durant plusieurs heures. Il devient rapidement cinquième dan, ceinture noire de karaté, discipline dans laquelle il est aussi instructeur et remporte 5 championnats régionaux. Mais le plus étonnant dans tout ça est que Ronald ne concevait pas ses différentes activités comme antagonistes. Au contraire, il les envisageait de manière tellement complémentaire qu'il entreprit des travaux très sérieux à propos des bases scientifiques des arts martiaux ou comment les arts martiaux permettent de dépasser, dans une certaine mesure, certaines lois de la physique, comme les lois de la pesanteur ? Peut-être. En tout cas, rien ne semble arrêter Ronald. Il a 28 ans et décide de se porter candidat pour le programme des astronautes de la NASA. Bon, il n'est pas le seul. Plus de 10 000 candidats se présentent aux examens. Autant vous le dire, la concurrence est rude. Et pourtant, Ronald McNair fait partie des 35 personnes à être retenues par le jury. En 1979, il termine sa formation à la NASA et se qualifie dans un panel encore plus restreint pour une affectation en tant qu'astronaute spécialiste de mission dans les équipages de vol des navettes spatiales. Et voilà. Voilà, nous y sommes. La première expérience de Ronald McNair en tant que spécialiste de mission fut à bord de la navette Challenger, lancée depuis le Kennedy Space Center le 3 février 1984. Ronald faisait partie d'un équipage expérimenté de 5 astronautes. Le vol a notamment accompli le déploiement de 2 satellites de communication et les essais en vol de capteurs de rendez-vous et de programmes informatiques, dont un ensemble d'expériences de lévitation acoustique absolument novatrices et initiées par Ronald McNair lui-même. C'est aussi lors de ce vol spatial qu'a lieu le tournage des films Cinéma 360, qui feront découvrir l'espace en version écran géant à des millions de spectateurs. 8 jours plus tard, la mission Challenger atterrit à bon port sur la piste du Kennedy Space Center. Nous sommes le 11 février 1984. Malgré l'aventure éprouvante que représente une mission dans l'espace, Ronald McNair n'a qu'une seule envie, repartir, et proposer de nouvelles expériences. Souvenez-vous, non seulement Ronald est un astrophysicien de génie et un champion de karaté, mais il est également un musicien virtuose. Ronald est saxophoniste. Et lorsqu'il commence à entrevoir sa seconde mission prévue pour le tout début de l'année 1986, Ronald a une idée. En fait, plus qu'une idée, c'est l'accomplissement d'un rêve. Ronald est passionné de physique du son. Il imagine allier la recherche scientifique aux gestes artistiques. Ronald confiera à des journalistes que pour lui, il n'y a pas vraiment de séparation entre les sciences, la musique, les arts martiaux, la philosophie. Puisqu'il s'agit toujours d'exprimer avec justesse et passion la réalité qui nous entoure. Le projet de Ronald est simple et pourtant absolument novateur. Il propose de prendre son saxophone à bord de Challenger et de jouer pour la première fois un morceau de musique dans l'espace. Avant la mission, il décide d'appeler le compositeur français Jean-Michel Jarre. Ronald pense que le style épuré de Jarre, alors au fait de sa gloire, sera approprié à une musique stellaire interprétée en apesanteur. Entre le labo et le tatami, Ronald McNair organise donc quelques sessions en studio avec Jean-Michel Jarre. De ces sessions émerge un morceau nommé « Rendez-vous 6 ». Ronald propose à Jean-Michel d'enregistrer un long solo de saxophone en apesanteur dans la navette et d'en étudier les propriétés dans cet environnement particulier. Ce qui aurait fait du solo de Ronald McNair le premier morceau de musique à avoir été enregistré dans l'espace. On le sait, l'enregistrement n'aura jamais lieu. Le morceau « Rendez-vous 6 » se verra affublé d'un nom supplémentaire sur l'album éponyme de Jean-Michel Jarre, « Ron's Peace », en hommage à Ronald. Mais ce n'était pas tout. L'enregistrement d'un solo de saxophone avait été pris très au sérieux par la NASA. Et il était bel et bien inscrit dans l'ordre de mission du prochain vol de Challenger, mais le projet ne s'arrêtait pas là. Fort des dernières recherches de son équipe au Labo Hughes de Malibu, Ronald propose de jouer un deuxième solo de saxophone, cette fois non pas pour un simple enregistrement, mais pour le jouer en direct d'un concert de Jean-Michel Jarre à Houston. Imaginez ça. Nous sommes en 1985 et Ronald propose de retransmettre son sax en direct vers la Terre grâce à un flux satellite ininterrompu. Bon, autant vous dire que Jean-Michel Jarre accepte tout de suite. Il trouve grandiose de jouer avec un musicien en apesanteur à plus de 400 km de la surface de la Terre. Mais ce moment, vous le savez, n'est jamais arrivé. Et tous les spationautes ne sont pas des musiciens. Noël 1985 est festif. Malgré qu'il soit soumis à un régime très strict, Ronald McNair a l'occasion de fêter Noël avec sa famille, dont son frère, Carl McNair. Les deux frères sont restés très complices. Durant l'enfance, ils ont dû traverser ensemble tant de difficultés liées à la ségrégation. Carl n'en revient toujours pas. Son frère est devenu astronaute. Alors qu'il trinque avec Ronald parmi les rires des enfants et les emballages cadeaux que l'on déchire au pied du sapin, Carl est songeur. Comment son frère a-t-il pu devenir le premier astronaute afrodescendant? Ah, si leurs grands-parents pouvaient encore être là pour voir ça. Carl explique alors cette anecdote de leur enfance, une histoire qui démontre à elle seule toute la ténacité et la volonté de son frère Ronald, que tout le monde appelait alors Ron. À 9 ans, Ron donc rêvait déjà de devenir astronaute. À Lake City, où la famille McNair vit, dans le Deep South américain, un noir qui veut devenir astronaute, c'est risible. Quand Ron explique cela aux autres enfants, il se moque de lui en lui proposant de se grimer le visage en blanc. Quant aux adultes, ils lui répondent avec affection que s'il travaille bien à l'école, il pourra peut-être envisager de devenir pompier. Mais pour Ron, explique son frère, devenir astronaute n'est pas qu'un rêve d'enfant. Non, c'est une certitude durablement ancrée en lui, dans ses tripes. Bon, le problème, c'est que le matériel scolaire de leur petite école est rudimentaire. Le seul moyen pour se procurer des livres de science est d'aller à la bibliothèque. Un jour après les cours, Ron ne rentre pas à la maison. Il parcourt seul plusieurs kilomètres pour se rendre à la bibliothèque de la ville. Il a griffonné sur un morceau de papier une liste précise des livres qu'il souhaite consulter. La réponse de la bibliothécaire est sans équivoque. Tu ne peux pas être ici, mon petit. Ici, c'est une bibliothèque pour les blancs. Ben alors où se trouve la bibliothèque pour les noirs ? Lui répond Ron. La bibliothécaire le regarde d'un air compatissant et s'exclame. Une bibliothèque pour les noirs ? Enfin, ça n'existe pas, voyons. Ron reste planté là, sa liste de livres à la main. Après un long silence, il l'attend à la bibliothécaire et dit « J'aimerais juste jeter un œil sur ces livres, s'il vous plaît, madame. » Les personnes commencent à s'impatienter, la plupart font semblant de rien, puis s'éloignent. Cette fois, la bibliothécaire dit d'un ton sévère « Tu pars sur le champ ou j'appelle la police ?» Mais Ron ne se démonte pas. Il grimpe sur le comptoir et s'assoit, jambes et bras croisés. D'un regard perçant, derrière ses grandes lunettes carrées, il déclare « Je vais attendre ». Et en effet, la bibliothécaire contacte la police qui répond qu'elle envoie une patrouille. On appelle aussi Pearl, la mère de Ron et Carl. Carl se souvient que sa mère est partie affolée de la maison. Elle a prié durant les 3 kilomètres qui la séparaient de la bibliothèque. Elle implorait Dieu en lui demandant qu'on ne mette pas son fils en prison. La police arrive sur place. L'agent de service rentre d'un air désabusé en s'essuyant la bouche d'un large geste du revers de la main. Il regarde longuement Ron, puis il jette un regard circulaire sur les étagères pleines à craquer de livres. Il n'y a quasiment plus personne d'autre dans la bibliothèque. Ron, toujours assis en tailleur sur le comptoir, pince fermement sa liste de livres entre le pouce et l'index. Le policier se dirige vers la machine à café et se sert un allongé dans un gobelet en carton. Le gargouillement de la machine rompt le silence pesant qui régnait depuis un bon moment. Le policier tend sa main libre vers Ron et lui demande avec autorité de lui donner le papier qu'il tient en main. À ce moment-là, Pearl, la mère de Ron, entre ruisselante de sueur et de larmes. Elle assiste à la scène, mais n'ose pas intervenir. En réalité, elle craint de franchir le seuil de ce lieu réservé aux seuls blancs. Le policier lit la liste de livres à voix haute. Il boit une gorgée de café et, sans regarder Ron, lui demande « C'est quoi ça ? J'y comprends rien. » Les titres des livres sont complexes. Ils parlent de futur, de l'astronautique, de physique des fluides. Bref, de ce genre de choses dont on parle peu entre 2 conversations sur le baseball et la météo. Le policier s'approche alors du comptoir et lance un air interrogatif à la bibliothécaire. Il lui demande « Mais pourquoi vous lui prêtez pas juste ces bouquins ?» Et là, Pearl d'ajouter courageusement « Ah, je vous promets qu'il en prendra soin !» Alors, la bibliothécaire, qui ne s'attendait pas du tout à ce scénario, se retourne sèchement et s'éloigne parmi les étagères en bois dont les planches plient sous le poids des livres. On ne la voit plus, mais on l'entend distinctement soupirer et claquer des talons à chaque fois qu'elle s'arrête devant tel ou tel rayonnage. Elle revient avec plusieurs livres, tous plus épais les uns que les autres. Ron inscrit son nom sur une fiche et s'empare de la pile d'ouvrages. Le policier ajoute « On va tout de même pas empêcher nos gamins de rêver aux étoiles. » La couverture d'un des livres représente le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ron affiche un large sourire. « Qu'est-ce qu'on dit, Ron ?» lui lance sa mère depuis le palier. « Merci, madame. » Pour Carl, cette histoire démontre combien son frère Ronald n'a jamais accepté les normes sociales. Parce qu'au fond, comment un noir issu des plus basses classes sociales de la Caroline du Sud, portant des lunettes et n'ayant jamais piloté un avion, pouvait-il devenir l'un des plus brillants spécialistes de missions spatiales de la NASA ? Carl ajoute qu'une chose a beaucoup influencé Ronald. La série Star Trek. On y voyait des blancs et des noirs voyager et travailler côte à côte dans l'espace. Carl conclut en expliquant que si lui voyait ça comme de la science-fiction, Ron, lui, voyait cela comme une possibilité. C'est le mot que Ron utilisait toujours, possibilité, car selon lui, il y a toujours une possibilité. En cette fin des années 50, lorsque le petit Ron rejoint fièrement sa mère en serrant fort contre lui ses livres, puis salue d'un air malicieux le policier qui regagne son véhicule, il ne se doute pas qu'un jour, cette même bibliothèque portera son nom. En mémoire de sa disparition prématurée, à l'âge de 35 ans, la petite bibliothèque de Lake City deviendra en effet la Ronald McNair Library. En ce soir de Noël 1985, Carl raconte à toute la famille réunie cette histoire du petit Ron qui s'assied sur le comptoir de la bibliothèque. Toutes et tous rigolent de bon cœur. Un mois plus tard, après quelques reports de décollage, Challenger décolle enfin. Ce sera le second et le dernier vol de Ronald McNair.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte la tragique histoire de Ronald McNair, personnalité hors du commun. Astrophysicien de génie, musicien virtuose, instructeur de karaté de haut niveau, docteur en physique mondialement célèbre. Ronald McNair n'avait que 35 ans lors de son second et dernier vol spatial à bord de Challenger. Une catastrophe qui aurait pu être évitée. Nous y sommes. Alors, H. Nous sommes le 28 janvier 1986. Il est 11h38. Et il fait anormalement froid en Floride. Des vents glacés balaient le tarmac du Centre spatial Kennedy. Les 7 astronautes ne se doutent alors évidemment pas qu'il ne leur reste que 73 secondes à vivre. L'équipage de la mission Challenger STS-51L est constitué de 2 femmes et 5 hommes. Le commandant, le pilote, 3 spécialistes de mission, dont Ronald McNair, un spécialiste de charge utile, mais aussi un professeur de lycée, choisi parmi les 11 000 postulants astronautes pour devenir la première citoyenne de l'espace. Ronald McNair est serein. Il est bien conscient que les 9 jours de mission qui l'attendent vont être intenses et la charge de travail considérable. Mais il sait aussi qu'à bord se trouve déjà son saxophone. Il en a lustré le cuivre, changé le bec, puis il l'a rangé dans son étui renforcé pour l'occasion afin de résister au décollage et à la vitesse vertigineuse de la navette spatiale, près de 30 000 km par heure. L'avant-veille, Ronald a téléphoné à Jean-Michel Jarre pour le rassurer sur les derniers détails techniques de son live pour le concert de Houston. Les dernières images de Ronald montrent un homme souriant, à la fois fier de tout ce qu'il a déjà accompli du haut de ses 35 ans et confiant dans l'avenir captivant qui se dresse devant lui. L'équipage monte à bord du vol Challenger 51L. Les dirigeants de la NASA savaient que la conception du propulseur d'appoint présentait depuis 1977 une faille potentiellement catastrophique dans la résistance des joints toriques. Ces derniers entourent la circonférence de chaque segment de la navette. Il y a 2 joints toriques par segment, chacun mesurant à peine un demi-centimètre de diamètre. En ce mois de janvier 1986, je vous l'ai mentionné, il fait anormalement froid en Floride. Les ingénieurs avertissent alors les dirigeants des dangers de lancer la navette avec une température aussi basse. Ils expliquent que les joints toriques ont souffert de conditions climatiques particulièrement glaciales au cours de la nuit précédente. Les joints en question n'ont pas été testés en conditions de grand froid. Les concepteurs considéraient que la Floride, d'où partent toutes les navettes spatiales américaines, bénéficiaient d'un climat toujours ensoleillé. Grave erreur, car un anticyclone particulièrement froid, venant du cercle arctique, s'est depuis quelques jours généralisé sur l'est des États-Unis. Il s'est étendu à la Floride dans la nuit du 27 janvier. à l'aube. La température est descendue à moins 5 degrés Celsius. Cette exposition au froid a fortement fragilisé les joints toriques. Les dirigeants de la mission décident de ne pas faire remonter la crainte de ces problèmes techniques jusqu'à leur supérieur hiérarchique de la NASA. Et si des informations à ce sujet ont sans doute filtré, elles n'ont ensuite pas été relayées en plus haut lieu. Les protocoles en vigueur auraient pourtant dû être respectés, comme le confirmeront les rapports ultérieurs. Cette défaillance de résistance au froid des joints toriques aurait dû être exposée aux dirigeants de la NASA, et même à un niveau politique supérieur. Mais pour l'heure, il est trop tard pour parler de résistance au froid, car le compte à rebours est lancé. La navette spatiale Challenger décolle. Concentré sur chaque geste, l'équipage ne se doute de rien. Pourtant, dès le décollage, on peut clairement distinguer sur les images filmées depuis la base un échappement anormal de fumée qui provient du propulseur d'appoint. Ce propulseur est lui-même adjacent au réservoir externe de la navette. Le départ de flammes est inévitable. Le réservoir prend feu en quelques secondes et endommage le réservoir principal rempli d'hydrogène. La structure cède brutalement sous la chaleur. Le dôme inférieur du réservoir se sépare. La trajectoire de la navette dévie radicalement, entraînant sa désintégration totale. Les astronautes semblent encore en vie et conscients quelques secondes après la séparation de la navette et du réservoir, car trois des quatre dispositifs PIP du poste de pilotage ont été activés. Les PIPs sont des réservoirs d'air d'urgence. Ils fournissent environ 6 minutes d'air pur aux membres de l'équipage en cas d'accident. Il semble certain qu'à bord, plusieurs membres de l'équipage font face à l'accident avec sang-froid. Les enquêteurs ont estimé, en mesurant la quantité d'air non consommée, que les PIPs ont été utilisés durant les 2 minutes 45 secondes de vol qui ont suivi l'explosion. On ne sait pas si la pression s'est maintenue longtemps dans l'habitacle et en état de dépressurisation, on ne peut rester conscient à cette altitude que durant quelques secondes. L'habitacle a percuté la surface de l'océan à environ 350 km par heure, provoquant une décélération instantanée bien au-delà de la résistance de la structure du cockpit de la navette et encore plus de celle d'un corps humain. Si certains membres de l'équipage n'étaient pas morts durant ou juste après l'explosion de la navette, ils auraient, dans tous les cas, succombé en percutant l'océan. Le poste d'équipage et de nombreux fragments de la navette furent retrouvés dans les abysses lors des opérations de recherche menées au cours des mois suivants. Cette catastrophe suscita ensuite de nombreux débats quant à la sécurité technologique et les prises de décision au sein de la NASA. Les enquêteurs ont constaté que la culture d'entreprise de la NASA et les processus de décision avaient été les principaux facteurs ayant conduit à l'accident. Il fallut quasiment 3 ans avant que les États-Unis osent à nouveau faire décoller une navette spatiale. Et voilà les rêves de Ronald qui s'effacent en 73 secondes à cause d'un joint de quelques millimètres de diamètre gelé et surtout de rouages administratifs mal huilés. La catastrophe aurait sans doute pu être évitée. Cet accident fut bien évidemment le plus marquant de la conquête spatiale américaine, avec celui de la navette Columbia qui, en 2003, a implosé durant la phase de rentrée dans l'atmosphère de sa mission. Plusieurs mois après la catastrophe, la dépouille de Ronald McNair a été retrouvée et enterrée dans l'International Forest of Friendship Memorial au Kansas. Malgré cette tragédie, Jean-Michel Jarre a donné son concert à Houston. Ce concert rentrera dans le Guinness Book des records. En effet, il sera suivi par près d'1,5 million de spectateurs. Je ne parle pas de téléspectateurs, mais d'une vraie foule d'1,5 million de personnes, les routes étant bloquées à cause de l'affluence du public. les gens s'arrêtaient et suivaient le concert debout, sur les toits des voitures ou assis sur les panneaux publicitaires géants, parfois à plusieurs kilomètres de la scène. C'était un grand show son et lumière, projeté sur tous les gratte-ciels du centre de Houston, du pur Jean-Michel Jarre, au milieu de l'hiver texan. C'est le saxophoniste Kirk Wallum qui interpréta la partition de Ronald McNair. Un hommage intense, écouté par 1,5 million de personnes dans un silence total. Le solo de saxophone de Ronald continue encore d'inspirer des artistes contemporains. Laissez-moi encore vous raconter cette histoire de l'hommage rendu récemment à la première partition conçue pour être jouée en apesanteur. Nous sommes en 2021 à Paris. L'artiste albanais Henri Sala, qui vit et travaille à Berlin, imagine une gigantesque installation vidéo et sonore dans le cadre de sa nouvelle exposition à la Bourse de commerce Pinault Collection. Cette œuvre s'intitule « Time No Longer » et se présente comme un film d'une dizaine de minutes projeté sur un écran géant courbe qui fait penser à la courbe du globe terrestre. Le récit se déroule dans un module de la Station Spatiale Internationale. Une platine se déplace en apesanteur au beau milieu de la Station Spatiale. Et le bras et l'aiguille de la platine viennent de temps à autre, de manière aléatoire, se poser sur le sillon d'un vinyle. Il n'y a pas de présence humaine, comme si la station spatiale était abandonnée et que le disque était joué au hasard depuis un temps indéfini. La bande-son du disque, réinterprétée par le concepteur de cette installation artistique, évoque des passages de la partition de Ronald McNair. C'est très émouvant de regarder cette platine en apesanteur et cette aiguille qui, au hasard des mouvements, se dépose sur les sillons pour jouer quelques notes, parfois un plus long passage du solo de Ronald. Le film débute et se termine par la lumière du soleil affleurant la surface du globe vue depuis la cabine de la station spatiale vide. La lumière envahit soudainement tout l'espace. De nombreux sites ont été renommés en l'honneur de Ronald McNair. Ce petit garçon combatif, qui s'était assis sur le comptoir de la bibliothèque de sa ville de Caroline du Sud et qui avait pour devise « Tout est une possibilité ». Ron a maintenant un cratère de la Lune qui porte son nom, un cratère qui ressemble étrangement à la forme d'un saxophone. En attendant, l'histoire de la conquête spatiale n'en est qu'à ses balbutiements et il n'est pas impossible que prochainement la partition de Ron soit interprété dans la thermosphère. Mais la station internationale attend toujours un saxophoniste à son bord. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Gaëtan Saint-Remy.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.